Bonjour Caroline Brouet et bonjour à tous.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
C'est une application gratuite que l'on peut utiliser en arabe, ourdou, pachtou, farsi, anglais et hongrois. Elle a été créée par un couple de Hongrois en septembre 2015, développée en 2 jours et a tout de suite été téléchargée des centaines de fois par jour. Il faut dire qu'elle s'adresse à ces milliers de migrants qui transitent par la Hongrie et sont souvent perdus au sens propre et figuré. Alors l'appli InfoAide leur permet de trouver toutes sortes d'informations sur leur route, leur chemin de croix. Des infos en temps réel sur les frontières ouvertes ou fermées, les bus à prendre ou pas, les procédures de demande d'asile, les camps de réfugiés. Des données qui permettent de s'orienter, de connaître les lois. Les créateurs de l'appli rapportent le quotidien belge Le Soir, ont estimé qu'il y avait notamment urgence à corriger la désinformation couramment pratiquée par les autorités hongroises. Ainsi, au début du mois de septembre, raconte toujours Le Soir, des migrants s'étaient tassés dans un train à Budapest en pensant se rendre en Autriche. Sauf que la destination du train était un camp de réfugiés, non loin de la capitale. Du coup, au sein des damnés de la Terre, il y a encore une distinction, et de taille, entre ceux qui ont un portable et les moyens de le charger, et les autres. Les premiers y mettent toute leur vie et s'en servent comme un couteau suisse. Pour rester en lien avec leur famille, communiquer dans tous les pays ou même parler à des étrangers avec des logiciels de traduction automatique. Autant que pour trouver leur chemin, se repérer en mer, garder des traces de leurs errances et se renseigner sur Aide Info, l'appli dont je vous parlais. Pour se connecter au réseau, comme pour le reste, c'est le système D. Aujourd'hui donc sur France Culture, vous le savez, c'est une journée dans nos vies numériques et dans les pieds sur terre. Nous nous arrêtons sur ce qui se passe dans le portable de ces migrants connectés avec une seule histoire, celle d'un homme et de son téléphone, comme une extension de lui-même jusqu'à 14h. Sur France Culture, un reportage de Martine Abbat.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Moi, c'est José. J'ai 32 ans cette année.
Vous pouvez me montrer votre téléphone ?
Ah, c'est un... C'est un Samsung Galaxy Young. C'est ma mère qui me l'avait offert au pays pour mon anniversaire. Elle l'a acheté à 120 euros, un truc comme ça. Donc chez nous, c'est beaucoup, c'est cher. Ça fait 1 200 000 par là, de francs guinéens. Vu le travail que je faisais, elle était fière de moi, journaliste, tout ça. Et puis, elle m'avait jamais offert quelque chose parce qu'elle n'avait pas les moyens. Donc, elle m'a dit que peut-être ça m'aiderait, vu que je suis journaliste et parfois, je pourrais prendre des photos, des interviews, des trucs sur place, sur le vif.
Il a un bon format, vous pouvez le glisser dans votre poche.
Voilà, en fait, vous pouvez même l'attraper comme ça. Personne ne sait que vous avez quelque chose dans la main. Faire une interview, parler à quelqu'un, ça enregistre tout. Vous savez, on a des coins qu'on appelle les maquis chez nous.
Chez vous, c'est où ?
À Guinée-Conakry. Et donc, les maquis, c'est des petits bars où de grands hommes se retrouvent, mais incognito. Ils ont beaucoup de choses à déclarer parfois, donc je faisais quelques petits enregistrements ici et là, en douce. Parfois, je faisais comme ça, je mettais là juste dans la manche.
Caché.
Et puis ça se voit pas, ouais. Je parle comme ça. Vous parlez, regardez là où vous êtes, vous savez même pas, j'enregistre tout. J'ai beaucoup d'interviews du pays dedans, sur certains politiques, etc. Des choses que je tiens à garder secret. C'est un téléphone de légende. Oui, c'est pour ça que je ne l'ai jamais jeté. Ils ont tout fait, mes amis, tout. Change, jette ce téléphone, ceci. Je dis non. Je dis, le jour où ma mère me l'a acheté, je ne savais pas, mais en fait, c'est le téléphone qui m'a sauvé la vie. Ce jour-là, ouais. Je ne savais pas, je pensais que c'était un cadeau, mais après, j'ai compris que ça, c'était beaucoup plus que ça. C'est en fait par rapport à ce téléphone justement que j'ai eu beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Je me suis fait agresser en fait pour mes opinions politiques. Notre radio, elle est venue, elle s'est implantée en 2006 en Guinée. Et donc le directeur avait voulu de 109 de nouvelles personnes qui voyaient sur une autre perspective les choses. Donc on a commencé comme ça. On n'était que 6 journalistes. On faisait le journalisme, l'animation, etc., etc. J'ai préféré la politique. Ça me plaisait beaucoup, en fait. Je me disais que je pouvais apporter un petit changement, un petit plus à ce qui se passait. Et oui, ça apportait un petit plus parce qu'en janvier 2007, il y a eu la première grande révolte contre le régime de Lansana Conté, le président. Et il y a eu sa mort en 2008. Et après sa mort, en fait, les gens ont compris que cette radio, c'était comme un soulèvement, comme un réveil, parce qu'on arrivait à parler au plus bas peuple, c'est-à-dire ceux qui n'arrivaient pas à parler français, qui n'étaient pas allés à l'école et tout ça. On faisait tout en simple. Chez nous, il y a 60% d'analphabètes. Donc il fallait atteindre ces 60%-là. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Donc à la mort du président, il y a eu Moussa Dadis Camara. Lui, c'était plutôt la violence par la violence. Tout ce qui est politique, tout ce qui touche au président, tout ce qui est témoignage contre le pouvoir en place, il faut absolument tout saisir et tout détruire. Il n'y a aucune liberté d'expression là-bas. Tout ce que vous dites, par exemple, vous préparez le journal de 18h, vous avez vos sons, vous avez tout, on vous appelle le boss, ou bien carrément le ministre ou tel vous dit carrément, écoute, tel passage dans le son, tu l'enlèves, tel passage dans le journal, tu l'enlèves. Et moi, j'acceptais pas ça, en fait. Ça m'a valu une fois un an de suspension à l'antenne. Parce que j'ai refusé, j'ai continué à faire mon journal. Mon son, je l'ai passé. Et donc, un soir, après l'info de 23h, je suis rentré chez moi. C'est là que j'ai vu une voiture qui bloquait la route. Je suis descendu, j'ai vu le type avec sa cric en train d'enlever le pneu. C'est là qu'en demandant « je peux vous aider », il m'a assommé. Avec le cric, bien sûr. Ils ont fouillé la voiture après tout ça. Ils ont tout cassé. Le téléphone, ils l'ont pris, ils l'ont jeté à terre. Je crois qu'ils ne s'imaginaient pas que c'est dans ce téléphone que j'avais mes renseignements. Ils pensaient plutôt à un dictaphone, un truc de journaliste. Et le téléphone venait à peine d'être en Guinée. Ils se disaient juste que c'était pour des photos, de la musique. C'est ce qu'ils se disent dans la tête. Mais ils ne pensaient pas que j'avais enregistré des trucs avec. Des trucs qu'ils cherchaient. Mais ensuite, c'était le noir total. Je me suis réveillé un mois après à l'hôpital. C'est ma mère encore qui l'a récupéré. Quand je suis sorti de l'hôpital un mois après, elle me l'a remis. C'est là que ma mère m'a dit « Tu as toujours ton téléphone. » Ce téléphone même qui m'a beaucoup aidé jusqu'ici. C'est pour ça que je le garde soigneusement. Vous avez vu, il est totalement gâté, gratté, tout ça, mais j'y tiens toujours. Je le range aux petits soins. J'avais un objectif, venir ici, en France. Bon, depuis petit, c'est mon pays de rêve. Donc, j'ai quitté en voiture Conakry, la capitale. Je suis allé à Cancan, une ville du nord-est de la Guinée, qui fait frontière avec le Mali. Donc, c'est là, par là que j'ai traversé, je suis arrivé à Bamako, la capitale. Donc là, j'ai fait le chauffeur. Donc, j'ai fait ça pendant 6 mois. Et c'est là que j'ai décidé de continuer. Donc, la Mauritanie fait frontière avec le Mali par le nord. Pour aller à Nouakchott, il fallait passer par Bilad al-Rouf. C'est connu de tous là-bas, ils appellent ça le pays de la peur. C'est le désert, en fait. Du sable, rien que du sable. De l'air chaud. Vous avez l'impression que c'est le souffle d'un dragon qui est sur vous tous les jours. Il faut traverser tout ça, éviter les rebelles du désert qu'on connaît tous. C'est pour ça que ça s'appelle le pays de la peur, Bilad al-Rouf. Vu que j'avais fait le taxi, j'ai fait comme si j'allais livrer en fait des bidons d'huile dans le pays à côté. En fait, dans les bidons d'huile, j'avais des bidons d'essence cachés en fait. J'ai bien préparé mon évasion, comme on dit. Il faut être malin. En fait, chacun a son côté petit malice en traversant. Et donc, les rebelles sont toujours en connivence avec les voituriers, etc. Ils savent quelle voiture bouge, quelle voiture vient, qu'est-ce qu'elle fait, ceci, cela. Donc, tout est surveillé. Tout est absolument tout. Le désert, il paraît vide, sec, mais en fait, il ne l'est pas. Les yeux sont rivés sur le moindre détail, le moindre mouvement. Parfois, ils se cachent même sous le sable et ils attaquent certains voyageurs à pied, etc. Ou en voiture, par exemple, la nuit, quand vous stationnez pour vous reposer ou tout. Donc, quand vous y allez, il faut aller à plus de 120 à l'heure sans vous reposer. Il faut y aller vraiment à fond. C'est à peu près 1600 km sans reposer.
Sans s'arrêter.
Si, il faut s'arrêter parce qu'il faut refaire le plein de la voiture. Mais il faut savoir où s'arrêter en fait. Et donc j'avais un ami à Mauritanie qui m'expliquait où se trouvaient les rebelles parce qu'il est un peu arabe touareg. Donc il a ces informations-là. Ils savent exactement si par exemple un groupe de rebelles attaque des étrangers dans tel lieu, c'est qu'ils sont plus concentrés là que sur le chemin où vous vous trouvez. Et quand il me disait « repose-toi », je me reposais. Et je me tenais au fil, en fait. C'est comme ça qu'on se tient, nous, petits, petits migrants. C'est par téléphone, en fait. On sait exactement où aller et où ne pas aller. Le net en Afrique, c'est pas du tout facile. Vous arrivez, par exemple, dans un désert, il n'y a pas de connexion. Il faut se joindre par téléphone, c'est-à-dire, et même les appels, ça disparaît. Donc, ce que j'avais fait, c'était les cartes. J'avais un peu cartographié tout et j'avais une boussole dans le téléphone, en fait. La boussole me permettait dans le désert de savoir à chaque fois où je me dirigeais vers le nord. Parce qu'il fallait que j'aille tout le temps vers le nord. Le nord, toujours.
Donc, du nord Mauritanie, vous êtes passé au sud Maroc.
Voilà, au sud Maroc. Et là, j'ai donné de l'argent à un camionneur. Je lui ai proposé d'être son apprenti, s'il voulait, juste pour qu'il m'aide à atteindre la Casablanca. Ensuite, je le laissais tranquille. Pas de problème, pas de problème. Vous montez, vous montez. Et là, je suis monté. C'est parti. On a fait les 2300 km, je crois, un truc comme ça. Jusque le nord, exactement, du Maroc. C'est là que je suis arrivé à Sheba. Là, j'ai fait la pêche. J'ai fait la pêche là-bas pendant plus d'un an. Walid, c'était le chef du bateau dans lequel j'ai bossé pendant un an. Je mangeais chez lui, je dormais chez lui. J'étais quelqu'un de la famille, en fait. Il a eu confiance. C'est un homme qui vit comme un bédouin, tranquille dans son coin. Il est atechnologique, si vous voulez. C'est juste sa pêche, son petit repas, sa vie de famille, son petit thé à la maison. Ça lui va. Au début, j'étais juste un petit apprenti. Ensuite, un jour en mer, on est allé pêcher, il y a un des types qui est tombé à l'eau. Donc, j'ai même pas posé de questions. Moi, j'ai sauté à l'eau pour aller le chercher, vu que le bateau s'éloignait. C'est des petites pirogues. Ils ont eu beaucoup de respect pour moi, le fait d'avoir sauvé un des leurs. Donc, je faisais partie du truc. Et la nuit, j'étais chargé d'amarrer le bateau, de vérifier les cales, tout ça, les filets de pêche, de les décortiquer, tout ça, etc. Et ensuite, la clé, je fermais le truc, le moteur, je l'enlevais. C'est comme ça que j'ai fait pendant un an. Et donc, on m'avait dit qu'il y avait beaucoup de migrants qui étaient dans la forêt juste à côté. Il y avait carrément une vie là-bas. Une nuit, je suis allé, j'ai retrouvé quelques Guinéens. Au début, ils se sont méfiés, vu ma peau, ils ont cru que c'était un arabe qui était venu en éclaireur, quoi. Parce que j'ai les cheveux crépus, tout ça, la peau claire. Ils m'ont attrapé de force. J'ai parlé en soussou. Le soussou, c'est un peu la langue nationale dans le pays. La Guinée Kanana, je suis guinéen. C'est ce que j'ai dit. Je dis, bon, moi, je ne sais pas trop ce que vous voulez faire si c'est payer des passeurs pour pouvoir passer comme vous le faites. Je dis, mais moi, j'ai une pirogue. J'ai le moteur, le gars me fait confiance. Je dis, le truc prend 80 litres d'essence. Je ne sais pas si ça va suffire, mais au moins, on essaiera de voir ce qu'on peut faire avec. On a cotisé. On a payé exactement 85 litres d'essence au marché noir. Et on est parti, c'était un jeudi soir.
Ça veut dire que le bateau, vous l'avez volé aux pêcheurs ?
Oui, en fait, on a tout volé. On voulait quitter l'Afrique. Peu importe. En fait, moi, je me suis toujours dit que le jour où j'aurai un petit truc, que je vais redevenir un homme, c'est-à-dire m'intégrer dans la société, j'irai retrouver cet homme pour lui rendre son bateau et son moteur. Parce qu'il m'a permis de venir jusqu'ici. Mais je me dis aussi que, au fond, s'il sait que je suis venu jusqu'ici, que j'ai survécu, il en serait fier. Parce que cet homme m'aimait bien, il m'aimait beaucoup. Walid.
France Culture, les pieds sur terre.
On était 12 personnes dans la pirogue. Il y avait des Guinéens, il y avait des Mauritaniens, des Sénégalais, des Ivoiriens. Et là, les types me disaient, non, ils disent, tu connais la route, tu nous fais traverser. Je dis, ben oui, je connais, qu'est-ce que tu racontes. Mais franchement, on voyait la côte
La côte espagnole ?
Oui.
Dans le détroit de Gibraltar ?
Oui, exactement, la Méditerranée. On y allait, mais on n'atteignait jamais la côte, en fait. C'est comme si c'était atteindre l'impossible, vu le courant marin qui est très très fort. Vous ne pouvez pas aller tout droit, c'est pas possible. Il y a des vortex par-ci. C'est ce qui fait que beaucoup de bateaux coulent, de grands bateaux et tout ça. Je guettais toujours le nord. Il fallait toujours aller dans le nord. On sait tous que l'Europe, c'est dans le nord de l'Afrique. Donc nous, on se disait le nord, jusqu'à ce qu'on ait une côte. Et à tous les autres aussi, ils étaient là à chercher la connexion. D'autres essayaient les appels, mais c'est en pleine mer, c'est pas facile. Il y a pas de réseau, en fait. Donc on tenait le nord. Je crois qu'on avait parcouru 100 km et le bateau s'est coupé une nuit. Plus d'essence. Donc c'est là, quand ça a coupé, j'ai fait semblant pour ne pas que les mecs paniquent. J'ai dit non, que j'ai laissé le moteur se reposer. Et on s'est mis à tanguer. Le premier jour, deuxième jour, on ne voyait plus la terre ferme. On ne voyait aucune côte, en fait, à l'horizon. On avait très soif, on n'avait pas mangé aussi. Ce n'est qu'au bout du troisième jour, vers 1h15 du matin, on dormait et c'est là qu'on a entendu un hélicoptère militaire. C'est là qu'ils ont fait descendre une échelle. Ils nous ont pris chacun à notre tour. Ils nous ont amenés à Tarifa. Et là, il faut attendre 60 jours, en fait. Chaque cas est soumis à l'immigration. Si au bout de 60 jours, il n'y a aucun résultat, on ne vous dit rien, c'est que vous êtes accepté. Mais s'il y a quelque chose, ça veut dire que vous risquez de retourner, en fait, d'où vous venez. C'est là que une femme, Rosina, elle travaillait pour la Croix-Rouge. C'est elle qui m'a aidé à sortir de ce camp. Elle m'a mis un uniforme de Croix-Rouge. Et vu que j'avais la peau claire, donc les gars n'ont pas du tout pensé, je parle bien français. Donc ils se sont dit non, lui c'est pas un migrant. Donc elle dit c'est mon aide de boulot, tout ça. C'est comme ça qu'elle m'a fait sortir, elle m'a laissé à Madrid, elle m'a donné de l'argent aussi, 500 euros. Elle m'a dit qu'il fallait que je me rende à Hendaye. Hendaye, c'est une ville dans le nord de l'Espagne qui fait frontière à la France.
Dans le Pays Basque ?
Oui, elle dit que là, j'ai plus de chances de passer sans problème. Parce qu'il y a peu de contrôle. Donc c'est là que j'ai commencé à contacter les gens par téléphone. Le peu de gens que je connaissais ici sur Facebook. Et puis sur Skype, ils n'en revenaient même pas que j'étais arrivé là. Ici, le net est facile. Parce que le téléphone, en fait... Je ne sais pas comment, par quel miracle, je crois que comme c'est ma mère qui me l'a donné, il se connecte automatiquement à Free Wi-Fi Secure. Ça a été ma chance. Donc quand j'ai connecté automatiquement, j'ai essayé et Google a pris. C'est là qu'une de mes cousines m'a accueilli chez elle. C'était à Saint-Ouen. J'y suis resté un mois après, elle m'a chassé comme un chien. Je suis rentré chez moi un soir, j'ai vu mes affaires devant la porte. Je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe. Elle me dit non, ben... J'ai mon nouveau-né, mon bébé, donc on peut plus te garder, tout ça. J'ai pris mes affaires et je me suis retrouvé dans la rue de Paris. Comme tout migrant, quoi. Je connaissais pas Paris, je connaissais personne ici, à part celle-ci, ma cousine qui m'a mis dehors. Mais il y avait un petit parc à côté de l'immeuble où j'habitais. Donc je passais la journée dans le parc. Avec le peu d'habits que j'avais, je mettais tout sur moi, vu le froid. Je dormais sur ce banc, tout ça. Le peu de sous que j'avais, j'ai acheté du pain sec. Des pains secs que je mangeais chaque nuit avec quelques petits œufs, du fromage. J'ai acheté ça, j'ai gardé dans le sac. J'économisais. C'est là que je dormais sur le banc. Et au bout d'une semaine, c'est là que je suis revenu. Dans l'immeuble de ma cousine à Saint-Ouen, là où on m'a viré, le 8e étage n'était pas habité en fait. Donc je dormais souvent dans le couloir du 8e sur la moquette. Parfois je restais dans les escaliers de secours ou dans le vide ordure à côté, dans la salle du vide ordure. Là c'est comme ça, j'ai fait 6 mois là-bas. Il y a des nuits que je pleurais tout seul. Je me demandais qu'est-ce que j'avais fait pour mériter tout ça. Moi le grand journaliste au pays adulé de tout le monde, j'avais tout ce que je voulais et j'étais réduit à dormir dans... les escaliers d'un immeuble sans rien. Mais je suis habitué à me relever. Je me suis dit, c'est ça être homme en fait. Donc je me suis relevé. À 23h, je faisais le 1-1. Et c'est là, parce que le 115, quand je les ai appelés, il fallait...
Le 115 ?
Oui, ils vous disent qu'il n'y a pas de place.
Et votre téléphone, donc vous le rechargiez l'immeuble. Dans le couloir de l'immeuble.
Oui, l'immeuble.
Mais comment vous faisiez pour acheter vos cartes, vos unités ?
J'avais pas d'unité. J'en avais pas. Le 115, il se fait gratuitement. C'est là qu'au bout du sixième mois, une nuit par hasard, j'ai fait le 115. C'est passé. J'ai eu une place. C'est là que j'ai commencé à dormir au 1-1. Quand j'ai dormi sur un lit après plus de un an, j'étais vraiment heureux. Ce téléphone, il m'a sauvé de la rue. Donc, au 115, j'ai vu tout le monde à 6 heures activer le téléphone. Parce que le téléphone, là, au 115, c'est le roi des rois. Le matin, c'est la chose absolue. Donc là, c'est la chanson de l'espoir. Parce qu'en fait, il y a deux chansons. Il y a une qui dit... Vous avez composé le 115, le numéro des sans-abri. Pour l'instant, tous les travailleurs sont occupés. Oh là, c'est... Là, vous tombez par terre, vous vous dites non, vous arrachez tout ce qu'il y a. Et il y a l'autre chanson qui dit, bienvenue au 115, restez en ligne, dans quelques minutes, un agent... Oh là, ça c'est la joie. La dernière fois, j'étais à Saint-Ouen. Je passais, j'entends un type qui était comme moi à l'époque, qui était arrêté, j'entends la musique du 115. Ça m'a replongé totalement en arrière. J'ai regardé l'heure, il était 23h30. J'ai dit au type, c'est pas la peine. J'ai dit, tu n'auras pas de place. Il dit, le meilleur, c'est d'attendre. Tu coupes, tu rappelles genre à 35. Et c'est ce qu'il a fait. Il a rappelé juste à 35. Et dès qu'il a eu, la femme lui a dit, oui, vous avez une place. Il a truqué, il m'a regardé comme ça. Le type, c'était un arabe. Il m'a soulevé. Il dit, waouh, il dit, toi, tu connais, hein. J'ai dit, man, si tu savais... Si tu savais, c'est pas possible. Moi, cette musique, elle me terrifie. On va essayer cette musique. Attendez, ça va venir.
Ouais. Bonjour. Compte tenu du nombre d'appels importants, toutes nos lignes sont momentanément occupées.
Ça tue.
Pour ne pas prolonger votre attente,
ah.
Bien vouloir renouveler votre appel.
Oui.
Ça tue.
Oh là. Une minute, s'il vous plaît, je vais répondre
à...
Oui. Allô, où tu es? T'es à pied? T'es sorti déjà du métro? Ouais, non, quand tu sors, tu me dis quoi, je descends t'ouvrir. Ah, ok. Je t'attends, je suis là. Le téléphone, c'est notre vie en fait. On parle à nos familles dessus. On montre à nos familles qu'on est vivant, qu'on est toujours là, en bonne santé. Donc ça permet de faire la jonction. D'avoir surtout la stabilité, parce que, vous savez, on demande des documents ici qu'on ne pouvait même pas amener, parce qu'on est sorti rapidement du pays. Avec le téléphone, on a quelque chose en un, deux jours, en quelques heures même, voire. C'est plus rapide. Qu'avant, on devait avoir en une semaine ou deux. Donc quand on a ça, c'est fini. C'est comme un ordinateur, c'est comme tout pour nous. Justement, c'est par le téléphone que j'ai découvert les centres associatifs, les Sœurs de la Charité à Oberkampf, les toilettes de la mairie pour pouvoir se laver, tous les tuyaux en fait. Parce qu'entre migrants, on se dit juste, non, tu as ton téléphone si tu as le net, vas-y, tu cherches ça, et c'est comme ça que ça part. Donc je savais où manger finalement, où me laver, matin, midi et soir, etc. Tout était parfait en fait, c'est juste où dormir qui était mon problème. C'est pour ça que j'aime ce petit téléphone. C'est vraiment mon Superman. Il a tout.
Là, votre téléphone, il vous sert à appeler toujours votre mère ?
Oui, toujours, toujours. On reste en connexion. Mais là, pas à appeler. Là, je préfère plutôt Facebook, Skype. C'est plus sûr. Parce que nous, en Guinée, on a la grande antenne relais satellite qui est pour la Sotelgui. C'est la société numéro 1 de téléphonie, la première en Guinée. Et elle appartient à l'État. Et donc, comme les autres sociétés n'ont pas d'antenne relais, donc ils se servent de cette antenne. Donc toute communication ou quoi que ce soit passe par cette antenne. Si vous êtes recherché par le gouvernement ou quoi que ce soit, on vous retrouve. C'est indéniable. On sait où vous êtes, comment vous êtes et on sait qui est votre famille. Et il peut faire du mal à votre famille.
Vous êtes recherché?
Je suis recherché pour les infos qu'il y a dans ce téléphone. Parce que j'ai fait un dilemme avec eux. Si je pars, ils laissent ma mère tranquille. Et Dieu soit loué, elle est tranquille. Ils ne lui ont rien fait, ils ont respecté la parole. Du moment que je ne parle plus à la radio, tout ça, c'est bon. Ça va. Mais ce téléphone, il est encore recherché. Parce que j'ai vu mon directeur de l'information qui m'a retrouvé. Il m'attendait devant le métro Je fais deux pas, la tête baissée sur le téléphone, je lève la tête. C'est la voix en fait qui m'a intrigué. La voix a dit: ah, c'est là que tu es. J'ai levé la tête, puis j'ai vu le type, mon directeur de l'information. Puis je dis: mais par quel miracle, par quelle magie ce type a pu me retrouver comme ça? Après, je lui ai dit: laisse-moi tranquille. J'ai continué ma route. Et ensuite, je l'ai observé. Il est resté là un moment, il a fait un coup de fil. Il est parti. Mais où j'ai eu peur, j'ai même changé de numéro de téléphone. C'est qu'il m'a envoyé un SMS sur mon numéro. J'ai dit: waouh! Comment il a eu ce numéro?
C'est pour ça que maintenant vous n'appelez plus votre maman?
Non, non, je l'appelle plus. Je reste juste sur Skype, Facebook, WhatsApp. C'est mieux.
À quoi il vous sert encore votre téléphone?
On regarde des films dessus. On va sur YouTube voir les artistes de chez nous. Moi, j'aime particulièrement Takana Zion. Je sais pas si je vais le retrouver. Takana Zion, ça c'est par exemple un de ses sons. C'est lui. Et en fait, lui, dans ses clips, il montre beaucoup du pays. C'est ce qui fait que c'est bien. Ça, c'est la ville, ça. Ça me replonge totalement. En fait, moi, j'écoute pas la chanson, c'est plus les lieux que je regarde, les gens. Les enfants de rue, les taxis de rue, ils se mélangent au peuple. Et c'est mon pote d'enfance aussi.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre dans le portable des migrants, diffusé dans le cadre de la deuxième journée spéciale de France Culture, Écrire le monde moderne, une journée dans nos vies numériques. Reportage Martine Abbat, réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Olivier Favier, à Geneviève Coudre, à José, à Ousmane et à Dosso. La journée spéciale dans nos vies numériques, ça n'est pas fini. Tout de suite, Marie Richeux. Un peu plus tard, le magazine de la rédaction, Ping Pong. Bref, tous les programmes de France Culture réfléchissent aujourd'hui sur le numérique. Restez sur notre chaîne. Bon après-midi à tous.